infiniment discret, muet, en retrait, qui ne nous parle pas. Et même, vivre ne s'éprouve pas, ou ne s'éprouve qu'à la limite, ne s'éprouve au mieux qu'à son orée, même si l'on est constamment habité. Vivre laissant alors affleurer le sentiment d'exister. Vivre n'est même pas une activité, mais l'amont silencieux de toutes nos activités, le puits enfoui d'où elle ne cesse de procéder. Ce pourquoi également vivre n'émerge que si difficilement à la pensée. Aussi, vivre est-il le verbe neutre, incolore, inexpressif par excellence, en même temps qu'il est le plus intensif, ou mieux, celui dont procède toute intensité. C'est ce qu'écrit notre invité. François Julien est à nos côtés. C'est une religion née au siècle dernier au Congo, le kimbanguisme, défini par le professeur Jean-Philippe Schreiber. C'est tout à l'heure dans notre grand dictionnaire. Soyez les bienvenus dans Études en tout ça.
Le magazine des philosophies et des religions, sur la première.
François Julien, vous êtes philosophe, helléniste et sinologue. Vous êtes l'un des penseurs contemporains les plus traduits dans le monde et vous signez de nouveaux livres, La transparence du matin, dont je lisais un extrait à l'instant, et Rouvrir des possibles, deux essais qui vont alimenter notre conversation. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment d'être en vie, François Julien ?
Oui, être en vie, nous y sommes tous, mais il y a autre chose qui est accéder à vivre. Donc, être en vie, c'est la condition dans laquelle nous sommes de notre naissance, donc de façon immémoriale pour nous. Et en même temps, c'est ce qu'on n'atteint jamais. Donc c'est cette contradiction qui fait, je crois, notre tension de vie. Le fait qu'on est en vie, mais qu'on souhaite vivre enfin.
Vivre enfin, c'est-à-dire ?
Enfin, parvenir enfin à vivre, c'est-à-dire non pas seulement être en vie, c'est-à-dire ne pas être mort, mais accéder à la vraie vie. C'est-à-dire être effectivement, et au fond, nous n'aspirons qu'à cela. Nous n'aspirons pas au bonheur ou à je ne sais quoi d'autre. Nous aspirons à pouvoir enfin vivre. Donc, ce qui me paraît le plus caractéristique de notre condition, c'est qu'à la fois, être en vie, c'est la condition de toutes les conditions. Et en même temps, c'est l'aspiration de toutes les aspirations. Donc, nous sommes en tension entre les deux. À la fois, je suis en vie, et en même temps, je n'arrive jamais complètement à vivre, à vraiment vivre.
Ouais, vous l'écrivez de cette manière-ci. Vivre est en quoi je me trouve depuis toujours immémorialement engagé, mais en même temps, vivre est à quoi je ne parviens véritablement jamais. Simplement vivre, écrivez-vous. Simplement vivre. Pourquoi est-ce si compliqué ?
Parce que c'est simple. Parce que, si vous voulez, vivre, c'est l'élémentaire, ce qui est donné en premier.
C'est le biologique ?
Et en même temps, c'est-à-dire qu'être en vie est biologique. Ce n'est pas être mort. Mais si le contraire de l'être en vie, c'est la mort, il y a un contraire de être vivant, vraiment vivant, enfin vivant. Et le contraire, c'est quoi ? C'est la non-être mort. Et puis le vivant comme étant pleinement, vraiment en vie, effectivement en vie. Et là, il s'agit d'une aspiration qui n'est jamais comblée. C'est pour ça que je parlais dans mon livre de nostalgie de la vie dans la vie.
Oui.
Il y a la nostalgie de ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'a pas, mais il y a la nostalgie de ce qu'on a. Et là, on entre dans la difficulté de penser vivre. La nostalgie de ce qu'on a, mais qui justement, parce qu'on l'a, eh bien, on n'y accède pas. Le fait d'être en vie fait qu'on a d'autant plus de mal à accéder à vivre.
Mais que faire alors, François Julien ? Que faire en sachant tout ce que vous venez de nous expliquer ? Pour enfin alors,
d'abord,
vivre,
je pense,
pour simplement vivre.
Je pense qu'il faut réfléchir, enfin en tout cas c'est mon métier de philosophe qui m'y conduit, il faut réfléchir entre, justement d'abord, éliminer tout ce qui fait marcher aujourd'hui, du développement personnel, du bonheur, enfin, qui veut nier tout négatif interne à la vie. Comme s'il n'y avait de négatif qu'extérieur, qu'on pourrait comme ça, on pourrait se débarrasser. Non, il faut penser que vivre est paradoxal, vivre est contradictoire. Je cite la grande phrase que Adorno place en exergue à ces minima moralia, la vie ne vit pas. Das Leben lebt nicht. Il faut partir de là, je crois. Parce que sinon, on est dans une sorte de facilité du jeu positif, n'est-ce pas ? Cette façon de... Mais c'est le marché du bonheur, ça. Mais non, penser que la vie ne vit pas, c'est-à-dire que la vie elle-même est en contradiction avec elle-même. Parce que la vie, en fait, rabat cet élan de vivre. Elle ne cesse de le rabattre. Et déjà...
Mais on ne peut pas échapper à ça.
Non, on ne peut pas y échapper, ça c'est parce que c'est constitutif du fait de vivre. Donc, on peut y échapper, on peut se boucher les yeux, on peut se... bien sûr, on peut ne pas le voir, mais je crois que les philosophes l'ont toujours pointé, cela. Et au fond, la formule de ce petit livre, La transparence du matin, c'est que il y a une inanité de la vie, mais il y a l'inouï de vivre. Et je pense que vivre, c'est justement rouvrir l'inanité de la vie, l'inanité, je ne dis même pas la vanité, l'inanité, inan, c'est-à-dire vain, rouvrir l'inanité de la vie à l'inouï de vivre. Il y a le rabattement d'une part, le débordement de l'autre. La vie ne cesse de se rabattre elle-même, mais en même temps, elle peut se déborder, c'est-à-dire on peut sortir des cadres déjà constitués, déjà figés de l'expérience, pour en entendre l'inouï. Et je crois que nos vies se décident dans cette alternative, soit on subit l'inanité de la vie qu'on constate, soit on trouve le moyen, enfin, je parlerai de stratégie face à cette difficulté de vie, de la vie, eh bien, pour en déborder, je ne dis pas dépasser, qui est le grand verbe de la métaphysique, mais déborder les cadres installés de notre vie qui font notre vécu pour, disons, fissurer.
Mais quelle stratégie alors pour aller vers ces débordements dont vous nous parlez, François-Julien?
Qu'est-ce qui fait qu'on vit vraiment? Eh bien, il y a différents types d'expériences qui, de ce débordement qui nous remettent en chemin de vraie vie. Par exemple, la capacité d'alternance dans sa vie. Si j'ouvre de l'écart dans ma vie, au lieu d'avoir une vie comme ça, normée et, disons, neutralisée par le quotidien, pouvoir faire et l'un et l'autre, c'est-à-dire risquer sa vie de divers côtés, ce qu'on appelle la vie alternante, n'est-ce pas, pour avoir faire un extrême, parce qu'on fait l'autre extrême, ne s'immobiliser dans aucune position, mais ouvrir de l'écart dans sa vie, pouvoir vivre à la fois, si vous voulez, la gaieté débordante et, disons, la désespérance, pouvoir faire les deux. Voilà, ouvrir de l'écart dans sa vie, ça permet de vivre à des extrêmes qui débordent l'ornière de la vie.
Ce que vous nous apprenez aussi, François-Julien, c'est qu'il ne faut pas s'attacher à sa vie pour pouvoir déployer la vie, et donc pour accéder à ce que vous appelez la vraie vie. Ça semble paradoxal, ça.
Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est l'évangile de Jean.
Que vous reprenez.
Parce qu'au fond, ce qui est intéressant dans Jean, c'est qu'il a deux mots pour dire vie. En fait, le grec en avait trois. Le grec peut dire la vie morale, poétique, c'est pios en grec. Et puis le souffle de vie, c'est-à-dire la vie du vital, l'être en vie, c'est psyché en grec. Et puis il y a un autre sens que promeut Jean, qui est la vie vraiment vivante, la source de vie. Et ça c'est Zoé. Et donc c'est Jean qui dit que, qui s'attache à sa vie en tant que psyché, souffle de vie, être en vie, eh bien ne vivra pas vraiment, n'accédera pas à la Zoé. C'est Jean qui le dit, c'est un paradoxe, je le souligne parce qu'il n'est pas dans les... chez les autres évangélistes, parce que je crois que vivre est éminemment paradoxal, c'est ce que j'ai dit en débutant, n'est-ce pas ? Être en vie comme condition et vivre vraiment comme aspiration. Là, il y a du paradoxe. Et je crois que la philosophie doit penser le paradoxe. Et vivre est éminemment paradoxal. Renverser l'inanité de la vie en inouï de vivre, voilà, c'est une tension résultant d'un paradoxe constitutif. Alors, est-ce que
Mais vous êtes d'accord avec Jean, si je puis dire, vous pensez qu'il ne faut pas s'attacher aux soucis de sa vie pour vivre?
Tout le monde l'a dit, enfin tous ceux qui pensent le disent, n'est-ce pas? J'ai plein d'auteurs qui disent la même chose, qui disent au fond quelque chose qui est constitutif, c'est-à-dire que si on s'attache à ça d'être en vie, qu'on devient dépendant, qu'on est dans cette adhérence vitale, eh bien, on se ferme, la vie ne se possède pas. Donc, on se ferme à une possibilité qui déborde nécessairement cet attachement, qui est de vraiment vivre. Je crois que c'est une banalité de la pensée, mais tellement comprimée, tellement recouverte, qu'on n'arrive plus à le penser. Parce que vivre ne se pense qu'à la lumière du paradoxe. Là, il faut distinguer la pensée de l'être, qui, elle, a exclu le paradoxe au nom du principe de non-contradiction.
Être ou ne pas être.
Donc, oui, en termes de propriété, d'opposition, etc. Bon, ça, c'est l'être, la pensée de l'être. Mais vivre échappe à ça. Et vivre ne se construit pas comme la pensée de l'être s'est construite. Donc vivre est un verbe qu'il faut détacher de l'ombre de l'être dans lequel il se trouve comme ça placé, pour le penser et dans sa force paradoxale. Et c'est vrai que c'est plutôt le religieux qui l'a fait. En tout cas, certains religieux, comme, disons, dans la pensée de Jean, que j'indique là, pas du tout, disons, dans un ordre de foi ou de croyance, pas du tout. Mais je lis Jean comme je lis Platon, comme je lis les auteurs chinois, c'est-à-dire dans sa cohérence. Et je crois que cela est clair. Mais ce que je dis de Jean, les Chinois l'ont pensé. Dans le Zhuangzi, je cite un passage où il est dit qu'il faut se dégager de l'être en vie et de tout ce qu'il enlise pour parvenir à la transparence du matin. Donc je crois que c'est une conception qui ne cesse de travailler au sein même de la pensée du vivre que le fait qu'il faut se désengager de l'attachement à la vie pour commencer à vraiment vivre.
Vous proposez plusieurs définitions du verbe vivre dans votre essai La transparence du matin, comme celle-ci: vivre est affronter l'invécu jusqu'à la mort. L'invécu, François Julien, c'est tout ce que nous n'avons pas encore vécu et que nous pourrions peut-être vivre un jour ?
Oui, c'est-à-dire pour entrer dans le verbe vivre, dont on voit bien qu'il est si difficile à pénétrer par la pensée, j'ai proposé plusieurs oppositions, celle du vital et du vivant, l'être en vie et puis le vraiment vivant, celle du vécu et de l'invécu, parce que le vécu, bon, là aussi c'est l'ordre de la possession, j'ai du vécu, il a du vécu plutôt, on le dit plutôt de l'autre, il a du vécu, comme une sorte d'acquis progressif qu'on a comme ça accumulé dans sa vie, et évidemment avoir du vécu, ça va l'expérience, donc ça paraît d'abord positif, mais en même temps ce vécu que j'ai accumulé risque de me borner dans mon ambition ou dans ma vocation de vivre, de la cadrer justement, et donc de la rabattre, d'où je construirai en vis-à-vis le terme d'invécu pour le porter au concept, ce qu'on n'a pas encore vécu. Et au fond, je pense que nous vivons, nous nous levons le matin pour aller vers de l'invécu, parce que si je reste dans mon vécu, je me répète, c'est l'inanité de la vie. Alors que penser qu'il y a tant d'invécu que je n'ai pas vécu, y compris l'invécu de la mort, qui est le dernier, n'est-ce pas ? Donc, qui est à explorer. Et c'est ça qui rend la vie aventureuse, et donc l'ouvre à ce que j'appelle l'inouï de vivre.
Est-ce que j'ai encore dans ma vie de l'invécu à vivre ? Ça serait pour vous la seule question qui importe. Pourquoi est-elle si importante, François Julien ?
Écoutez, parce que quand on est en relation avec quelqu'un, on a un lien, comme on dit. La question, c'est quel invécu j'ai encore avec cette personne ? Et est-ce que j'ai tout vécu avec elle ? Dans ce cas-là, la relation est morte. Mais est-ce qu'il y a encore de l'invécu avec cette autre personne ? Donc du à vivre, qui m'appelle à vivre ? Et je crois que c'est effectivement la question que je me pose, dans la relation, disons, intime, où quand on vit avec quelqu'un, c'est y a-t-il encore de l'invécu à vivre ? Si tout est vécu, eh bien c'est rengainé, c'est rangé, et disons, c'est la non-vie dans la vie.
La mort de l'invécu, c'est la mort du couple, François Julien ?
Ben oui, ça me paraît, disons, j'allais dire tomber sous le sens. C'est-à-dire que ce que cette rencontre avait de vie, progressivement s'est retirée et devient une relation stérile ou, disons, oui, une relation morte, dont j'attends plus rien. Et donc penser l'invécu, c'est une exigence. Qu'est-ce que je peux encore avoir à vivre avec cette personne ou, disons, dans mon travail intellectuel ? Qu'est-ce que je peux avoir encore à, n'est-ce pas, ouvert devant moi en attendant d'être fait, d'être vécu ? Et qui donc construit une exigence du dedans même de ma vie, et pas une exigence qui viendrait se projeter de l'extérieur comme un commandement ou une obligation.
Mais parfois on aime revivre ce que nous avons déjà vécu par le passé et ne pas pour autant avoir envie d'aller vers de l'invécu, François Julien.
Ben, votre vie est rabattue.
D'accord.
Si elle est repliée sur son souvenir et, disons, ne fait que coïncider avec elle-même, si je reprends ce terme, ben oui, c'est une vie rabattue, mais on vit ça couramment, donc c'est pas une étrangeté, c'est plutôt la
mais c'est grave, François-Julien ?
Écoute, ça, c'est chacun son jugement. C'est pas une question de morale, c'est une question, si vous, d'exigence. Pour moi, c'est une vie stérile, une vie perdue, une vie rabattue. Vivre, c'est offrir des possibles. Et ce qui m'intéresse, c'est comment repossibiliser sa vie. Donc une vie qui a perdu ses possibles, qui devient une ornière, qui devient, si vous voulez, quelque chose qui n'est plus travaillé par l'intensité de vivre, pour moi, c'est une vie perdue. C'est une vie résignée, enlisée, aliénée, et comme on dit, finalement, réifiée, devenue chose. C'est une vie chose, ce qu'on appelle la non-vie. Alors, c'est grave, c'est pas une question de valeur, chacun après en fait ce qu'il veut, mais encore une fois, je n'oblige personne à me lire.
Vivre, c'est selon vous le seul sujet des romans et en particulier de cette œuvre-ci.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « Je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé.
Ce sont les premiers mots de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. C'est une lecture d'André Dussolier. Vivre est à la fois décrit et réfléchi avec Proust, nous dites-vous.
Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a trois modalités principales pour accéder à vivre dans la pensée. Une, dans la mesure, et ce n'est pas la philosophie. La philosophie a pensé l'être, n'est-ce pas ? Et quelque part a laissé tomber vivre. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans la philosophie grecque. Quand on demande à Socrate qu'est-ce que Sophia, la sagesse, il répond épistémé, la connaissance. Et la philosophie, par son projet de connaissance, a laissé tomber vivre. Alors normalement, c'est le religieux qui a récupéré ce vivre sous la figure du paradoxe. On citait Jean dans ce sens-là. Et puis il y a la littérature, et d'abord le roman. Et le roman, effectivement, est dans cette capacité à explorer vivre à travers du récit, à travers des variations, à travers toutes ces l'enchaînement, n'est-ce pas, qui est le sien. Et il me semble que c'est ce qui est au centre de tous les romans. Et d'abord, des rencontres, n'est-ce pas, quelqu'un qui rencontre quelqu'un, qu'est-ce que ça, justement, fait apparaître d'un vécu et qu'il va vivre, etc. Et Proust, disons, est celui qui peut-être porte à la plus extrême limite cette capacité du roman. Mais c'est ce qui travaille les romans de Balzac, de Stendhal, etc. Mais
ouais, Proust, parce que vous dites d'ailleurs, parce que vivre ne s'atteint jamais complètement, on ne cessera d'écrire des romans. Le narrateur de Proust, on l'a entendu évoquer à l'instant, ses impressions au réveil. Que se passe-t-il, François Julien, au moment précis où vont se déclore nos paupières?
Oui, alors, dans le passage, là, la page liminaire du temps perdu, c'est le sommeil, c'est l'enfoncement dans le sommeil qu'il décrit, avec un réveil, mais qui est un réveil juste après l'endormissement. Ouais. Le vrai réveil proustien, c'est le réveil du matin, quand le narrateur est encore dans le lit, mais qu'il perçoit les bruits de la rue, qu'il perçoit, disons, à la limite des rideaux, le jour et l'état du jour, et qu'il se rend compte que ce sera un jour de pluie ou un jour de tempête ou un jour, bon, etc. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il n'a pas le spectacle de la rue sous les yeux. Non, il en est retiré. Et ce que décrit très bien Proust, c'est cette transparence du matin. C'est-à-dire quand notre vie se dégage par la transition de la nuit, du silence, se dégage du rabattement de la veille, et qu'elle n'est pas encore rabattue par le jour qui va suivre, les occupations qui vont reprendre et tout ce qui va faire le quotidien, la journée. Donc il y a un moment, si vous voulez, et je trouve ça précieux parce que c'est indiciel, le fait que le matin, au réveil, quelque chose s'ouvre à titre de possible, se dégage comme le ciel peut se dégager, qui fait qu'une possibilité de vivre apparaît, qui n'est pas encore rabattue. Donc je crois que c'est quelque chose qui est une ressource de nos vies, qu'il faut essayer de réfléchir. Et je crois cela par l'expérience chinoise que j'évoquais tout à l'heure, aussi bien dans le Mencius que dans le Zhuangzi, cette capacité, donc, qui, je ne fais pas du comparatisme culturel, surtout pas, je ne cherche surtout pas des lieux communs à la pensée, mais je vois qu'il y a des croisements à travers des langues si diverses et des temps qui s'ignoraient, et il y a cette, je ne vais pas soupçonner Proust d'avoir appris ça chez Mencius ou chez tel autre penseur chinois, mais néanmoins quelque chose, une exigence, ce commun, c'est une exigence de la vie qui est que la vie, se dégageant de ce qui l'encombre, en se découvrant, eh bien, laisse apparaître cette transparence du matin, et donc par immanence, par dégagement, pas par, encore une fois, de la chance ou du miracle ou je sais quelle causalité extérieure, non, du dedans d'elle-même, la vie peut transparaître, plutôt vivre peut transparaître de la vie. Et je crois que c'est un paraté. Et c'est ce que, si j'avais fait titre, c'est parce que, pour moi, c'est une valeur indicielle de ce que peut être, justement, l'accès à la vraie vie, c'est-à-dire à de l'invécu, c'est-à-dire à quelque chose qui est une exigence de la vie, dans la vie, à l'encontre du rabattement à laquelle ne cesse d'être exposée ou condamnée la vie.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h, le dimanche.
Sur la première.
Les lendemains ne chantent plus, c'est ce qu'observe notre invité, c'est le philosophe François Julien qui est avec nous. La transparence du matin et rouvrir des possibles, ce sont les titres de vos deux nouveaux livres. Et dans rouvrir des possibles, vous écrivez « Nous ne croyons plus désormais en l'avenir ». Illustration.
Il n'y a pas de sens, enfin, j'arrive pas à comprendre le sens de tout ça.
On demande un avenir sûr. Est-ce que c'est vraiment trop demandé?
Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs.
On s'enferme là, on s'enferme dans quelque chose qui rend triste tout le monde en plus, hein, qui produit en masse de la tristesse et de la dépression, du mal-être. Hein. C'est un système qui ne marche pas, voilà, qui est rentré, qui ne marche pas. Hein.
On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. Sait pas gérer nos relations, donc on les gâche. S'assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
Et vous aurez peut-être reconnu Aurel San ou encore l'écrivain Alain Damasio. Allons-nous vers le crash? En tout cas, c'est un sentiment qui est aujourd'hui fort partagé. Vous en dites quoi, vous, François Julien?
J'évite les images trop dramatiques, parce qu'elles sont un peu complices d'une certaine passivité. D'accord. On va dans le crash, bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, je pense qu'il y a autre chose à faire. Ce qui relie mes deux textes, « Transparence du matin » et « Revoir des possibles », c'est l'idée de possible, l'idée de possible, repossibiliser. Et c'est ça qui m'intéresse. La grande dramaturgie, si vous voulez, bien ou mal jouée, de « tout va mal », je l'entends, évidemment, comme tout le monde dans la société, mais je ne m'y arrêterai pas, parce que... Il y a un fait effectivement marquant qui est que ce qui fait notre époque, par différence avec les précédentes, c'est qu'on ne peut plus tracer de plan.